Voilà, je vais donner la parole maintenant à Kim Yun, qui est consultante, formatrice en français, langue étrangère et en alphabétisation. Alors, son intervention va être ponctuée de moments d'arrêt où il y aura des possibilités d'échange.
Donc voilà, je suis Kim et je vais vous présenter ma démarche pédagogique centrée sur les sensations et les émotions. Donc j'ai travaillé avec un groupe d'étudiants en français langue étrangère d'un niveau intermédiaire. Grosso modo, ça correspondrait à un niveau A1.2 acquis pour ceux qui sont initiés à cette catégorisation-là. Et donc, je me suis attelée à travailler et à me baser sur les émotions et les sensations dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors, qu'est-ce qu'une émotion et qu'est-ce qu'une sensation pour faire la différence? Donc, au niveau de la sensation, on peut dire que la sensation, c'est une impression produite par les objets sur les sens. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de nous peut provoquer au niveau physiologique, au niveau corporel, des sensations. Une émotion, l'émotion, la définition d'une émotion est assez difficile, comme on a déjà vu ce matin. Il y a plein de définitions différentes. Ici, j'en ai choisi une qui est une expérience psychophysiologique ressentie par une personne. Donc, tous ces beaux mots, bon, voilà, c'est une base de réflexion. Donc, les sensations et les émotions sont intégrées dans un projet que j'ai mené autour de ce que j'appelle l'espace universel. Donc, le sens corporel serait la conscience physique d'une situation, d'une personne ou d'un événement en un moment donné et qui nous informe sur tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Ça, c'est une définition du sens corporel selon Eugène Gendlin, qui est un philosophe et psychologue. Donc, la sensation est une chose, les émotions en sont une autre, elles sont réparties selon Paul Ekman, comme on a vu ce matin, la tristesse, la colère, la joie, la peur, le dégoût et la surprise. Ces émotions-là sont identiques pour tous et donc universelles. Donc, l'approche que j'utilise, ici j'ai essayé en fait de vous la schématiser. Qu'est-ce qui se passe lorsque on appréhende son monde extérieur?
C'est une question. C'est une question.
Je vous ai...
Un peu plus fort. Oui,
reformule. J'ai peut-être une question. Oui, peut-être. Qu'est-ce qui se passe quand on appréhende son monde extérieur? J'ai laissé un moment de silence pour vous laisser avec vous-même en réalité. Oui, on appréhende son monde extérieur avec... Je vais me lever parce que... Avec quoi? Les différents sens. D'ailleurs, on en a combien? Donc, selon votre canal privilégié ou vos canaux privilégiés, ça dépend des personnes, eh bien, on a d'abord une sensation corporelle que Gendlin appelle le sens corporel. Ensuite, mais qu'est-ce qui se passe?
Ça induit une émotion, une réaction.
Il y a quelque chose qui se passe. En nous. Ou pas. Et puis on peut partager ensemble, vous savez.
On peut ou on n'est pas obligé, mais on peut ou on ne peut pas le traduire sous forme de langage, s'exprimer. On garde pour soi ou on l'exprime.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une conversation intérieure aussi? Ou pas? Donc, on peut se dire qu'on ressent, qu'on a une sensation corporelle qui induit, comme vous le dites, une émotion. Et l'émotion vous amène à quoi? Une fois que vous êtes tout émotionné.
Ça nous amène à plein de choses différentes.
Qu'est-ce qui se passe?
Parfois, des réflexes.
Qu'est-ce qui provoque ce réflexe? L'histoire qu'on a. Et qu'est-ce qu'une histoire qu'on a dedans?
Le vécu.
Oui, et le vécu, comment on se la joue? On se le joue, je sais pas. Oui, donc l'histoire qu'on a, etc., etc., en nous, c'est le cinéma, si on peut parler ainsi, qu'on a en nous. Le cinéma, je dirais qu'on a vraiment dans tout le corps. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de se dire qu'on a un cinéma dans la tête, parce qu'on s'imagine que l'écran se trouve là, mais finalement, l'émotion, elle nous a parcouru dans le corps. Des fois un peu plus là, enfin... C'est personnel. Et finalement, ce qui se joue dans le corps tout entier, même si on le canalise très fort dans la tête. D'accord? Donc, c'est ce qu'on peut appeler l'image mentale. C'est-à-dire, on peut aussi l'étendre, puisque nous sommes ici autour de l'apprentissage d'une langue, ce qu'on appelle le signifié, c'est-à-dire le concept. Donc c'est une succession de concepts quand on parle d'une histoire qui se joue à l'intérieur de soi. Mais lorsqu'on se joue notre cinéma dans le corps, est-ce que c'est un film muet?
Non, non, il y a un discours intérieur.
Oui.
Plus ou moins construit.
Oui. Donc on passe par... Voilà. On passe par le signifiant, on passe par un langage. Qu'il soit intérieur ou qu'il soit exprimé vers l'extérieur. Ça va? Dans ma démarche pédagogique, j'utilise à souhait, vraiment tout le temps, ce schéma-là de construction de mes séquences pédagogiques. Je m'appuie toujours sur cela pour construire et les séquences et le projet dans sa globalité. Pourquoi est-ce que je m'appuie sur ces expériences sensorielles passées pour construire la nouvelle langue? Eh bien, ce que je privilégie, c'est le parallèle avec le développement du langage de l'enfant. C'est-à-dire que quand un enfant naît, ses premières expériences sensorielles se font avec la maman et ensuite avec son environnement, etc. Et c'est par ce biais-là que l'enfant va construire les concepts et sur les concepts construira la langue, sa langue maternelle. Donc il aura vécu, si on veut, une construction linguistique qui a pris son origine dans tout ce qui est sensoriel. L'empreinte de l'expérience sensorielle se fait profondément, très très profondément, c'est cellulaire. C'est pourquoi, là je fais une petite parenthèse, c'est pourquoi on observe chez des personnes âgées qui souffrent de dégénérescence, par exemple, que au niveau linguistique, c'est que la dernière langue qu'ils conservent, c'est la langue de sa mère, de leur mère. Donc, c'est-à-dire que si on est multilingue, c'est une généralisation, bien sûr. Il y a certainement des cas d'exception, etc. Mais on perd en premier les dernières langues acquises. Donc, c'est c'est à l'inverse. Donc ce qui est ancré profondément, c'est la langue de la mère. Et donc, je me base sur cette expérience-là, sur ce socle-là, pour construire la nouvelle langue. Je pars des expériences sensorielles, vécues comme vous venez de le vivre il y a quelques minutes, quand je vous pose la question, qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant ? Vous avez fait appel à votre corps, et ensuite à l'émotion que ça suscite, et ensuite à l'image mentale, et ainsi de suite. Donc, cette base sur laquelle je me pose me sert à réactiver, à stimuler des souvenirs et des expériences antérieures pour pouvoir construire la nouvelle langue. C'est aussi pour moi d'installer un cadre de sécurité pour l'étudiant. C'est-à-dire qu'il va aller vers quelque chose qu'il connaît, au-delà de la nouvelle langue qu'il ne connaît pas. Donc, on a tous connu ça, d'apprendre une nouvelle langue, c'est très insécurisant. On est un peu comme plongé dans le vide, comment est-ce qu'on va se faire comprendre, comment est-ce qu'on va comprendre l'autre, etc. Mais ici, la première étape, je ne demande pas forcément toujours qu'on passe par la langue française, c'est-à-dire que l'exercice commence par une expérience que l'on va voir de suite tactile. C'est-à-dire que chaque personne va toucher quelque chose, et ça va le ramener à ses propres expériences, donc un cadre qu'il connaît, et qui va le renvoyer de nouveau à une émotion, une image mentale et à une verbalisation ultérieure. Donc, les savoirs et les expériences sont construits sur un vécu sensoriel et émotionnel qui nous servent de grille de lecture à chaque nouvelle expérience. Donc ça, c'est le cadre sécurisant. L'approche sensorielle exploite et suscite la réactivation des sensations passées pour construire la nouvelle langue. Donc chacun a sa propre petite maison, si vous voulez. Donc, quel est l'impact des sensations corporelles et des émotions dans les méthodes d'apprentissage ? Donc de nouveau, ça va revenir beaucoup, mais c'est fait exprès. L'émergence d'une sensation corporelle, c'est la première étape. Donc comment créer une séquence pédagogique pour faire émerger cette sensation ? Donc c'est toute une réflexion, tout un savoir-faire que l'on apprend étape par étape à construire. Ensuite vient l'image mentale et la verbalisation. Donc l'ensemble de ce processus favorise une construction multisensorielle et diversifiée de la langue où chacun peut s'y retrouver. Donc chacun a ses propres expériences personnelles sur lesquelles il peut se poser et partager ensuite avec les autres. Cette manière-là crée une empreinte linguistique qui s'ancre de manière plus solide et durable, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous passer des extraits du DVD d'Espace Universel, qui est un projet qui a été mené avec des étudiants en immersion artistique. Donc j'ai collaboré avec un artiste designer et photographe autour de la thématique de l'universalité d'un espace commun. Donc, c'était un groupe avec un mélange de cultures différentes et je voulais les amener à créer un espace qui soit universel. Et dans ce projet-là, on a abordé différents thèmes qu'on aborde en général dans une classe d'alpha ou une classe de FLE, mais la porte d'entrée est légèrement différente qu'un cours plus classique, je dirais.
Nous donnons des cours à raison de 9 heures semaine. Au sein de ce cours de français, on consacre un jour par semaine à ce projet Espace Universel. On a découvert des habitats, des matériaux, les environnements, quelquefois des habitudes culturelles pour, à l'arrivée, construire, réaliser des meubles universels.
Mais Charles et Thierry, vous n'allez pas comment disposer dans l'espace, mais plutôt pour que ce soit joli et esthétique. C'est parti. Dès que vous avez besoin de lui, vous l'avez. Tu y viendras.
Voilà, ça c'était le début du projet. Ou de façon assez classique, au début d'un cours, on fait toujours de la map monde avec vous venez d'où, etc., etc. Ici, j'ai voulu prendre une petite porte d'entrée différente, c'est-à-dire que je ne leur ai pas demandé directement d'où ils venaient, etc., etc., mais de leur faire découvrir, en fait, différentes régions du monde qui n'ont rien à voir avec eux. Du tout. Donc, la phase de recherche, c'était d'aller voir les habitats sous forme de photos et d'aller faire des hypothèses et des déductions de où viendrait ce type d'habitat dans le monde. Donc, ma démarche à moi, c'est bien souvent de partir de l'ailleurs pour revenir à soi. Au lieu de partir de soi, aller vers l'autre. Mais tout est bon. Ça, c'est un choix pédagogique personnel, en fait. Vous pouvez interagir avec moi, je me sentirai mieux. Je me sentirai mieux. Donc, sinon, je vais expliquer des trucs qui ne vont peut-être pas vous intéresser.
Non, mais moi, j'ai une petite question. Vous démarrez avec ça, ok? Là, ils vont chercher différents endroits, ils vont les mettre, on va dire, sur une carte
mondiale. C'est une séquence tout à fait classique de voir les pays du monde, etc., où les thématiques des nationalités, des pays, etc. Enfin, je suppose que vous savez tous, en fait, ça. Enfin, je veux dire, on commence tous comme ça. Enfin, après quoi? Ben, c'est quoi la question?
Vous en faites quoi? Comment vous l'exploitez?
Ben là.
Comment les est-ce que ça permet aux gens d'exprimer effectivement d'où ils viennent après? Donc
oui.
Là, je vois bien ce qu'ils sont en train de faire, mais la séquence suivante, c'est quoi?
La séquence suivante, c'est que, eh bien, il y a la partie expression orale, où en coopération, chacun apporte en fait ce qu'il sait en français, de ceci, de cela, et il y a une mise en commun. Et donc quand ils présentent, par exemple, ils ont une photo, ils présentent ça, ils disent oui, ça vient de là, etc. Donc il y a l'installation en fait du champ lexical syntaxique.
En français ?
En français.
Vous voulez dire en français, le champ lexical syntaxique.
C'est-à-dire le vocabulaire et la phrase. Par exemple, quelqu'un va venir avec, maison. Maison. Il va parler en mots-phrases, si vous voulez. Maison, rond, etc. Et quelqu'un viendra avec une demi-phrase. C'est une maison. Et puis après, quelqu'un d'autre viendra avec l'autre partie de la phrase. Et ensuite, comme on est ensemble, la coopération voudra que, naturellement, je suis là aussi pour mettre les choses ensemble. C'est-à-dire que l'un va me dire ça, l'autre va me dire ça. Je fais, ah oui, c'est elle, là.
Et facilitateur.
Voilà. J'ai l'air de rien. J'ai oui, c'est ça que j'ai compris. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils se construisent au début des petites phrases qui vont devenir après plus longues et puis un texte. Ici, on voit... En fait, ici, je vais vous passer des extraits, donc ça va paraître un petit peu plic-ploc, mais le DVD dure 25 minutes, c'est pas possible. Là, ils sont en train de mettre en forme, ça c'est la fin de la séquence déjà. Ils mettent en forme ce qu'ils ont compris, les photos avec du texte. Et le texte, vous voyez, il a l'air long pour un niveau à 1.2 acquis, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour leur faire rencontrer la complexité de la langue. Et leur faire comprendre aussi qu'il ne faut pas attendre des années avant de passer à cela. On n'est pas obligé de tout comprendre dans un texte pour en comprendre le contenu général. Et de se dire que tiens, dans ce texte-là, il y a un mot, deux mots, trois mots que j'ai compris, donc je fais des déductions. Je vais peut-être me planter, m'en fiche. Moi, je suis en classe, je peux essayer ce que je veux. De toute façon, il y a bien un de mes camarades qui peut-être va me dire, ah, c'est peut-être pas ça, on va essayer ça, etc. Qu'au bout du compte, la coopération fait qu'on n'est pas en insécurité. C'est que autant je peux me planter que l'autre aussi. Mais finalement, dans dans mon plantage dans le sien, on va quand même finir par y arriver ensemble.
Oui. Ça, je trouve ça très important, c'est de ne jamais laisser l'apprenant seul face à une difficulté, mais en groupe. Donc ils peuvent résoudre des problèmes ou pas du tout, mais toujours de manière collective.
Oui.
Donc voilà, c'est
ça. Oui, c'est la solidarité. Ouais. Tous dans le même bateau, évidemment. Et donc, j'adore les images, hein, j'adore les photos. Donc, en fait, j'utilise beaucoup les images parce que c'est aussi une lecture du monde. Donc, si on n'est pas suffisamment à l'aise ou c'est pas notre dada, l'écriture, les mots, moi, je peux y arriver aussi parce que je vais décoder, moi, les images. Et mon voisin, peut-être, il va aimer le texte. Comme ça. Oui.
Vous
me
disiez que vous montrez la carte du monde. Oui.
Oui, mon but était celui-là aussi.
Ça veut dire qu'il doit quand même avoir des informations, quelque part. Ils doivent être eux-mêmes.
Et puis ils ont un savoir.
On a tout, ils ont tous un savoir, des savoirs. Donc c'est, par exemple, je ne sais pas si on a vu, il y a découpé une yourte ou un igloo, je ne sais plus trop. Mais j'ai laissé ça comme ça. Et là, la map monde, ils savent bien qu'il y a des régions du monde, il fait froid, il fait chaud, il fait tempéré, il fait des fois froid, des fois chaud, etc. Donc ils devinent. Le jeu, il est là aussi, c'est de se dire, mais moi je connais pas, moi je vais taper la yourte, je sais pas moi, là-bas. Voilà, je vais mettre la yourte là-bas. Et ça suscite aussi, si ce n'est pas exact, un débat ou en tout cas un échange, et se dire, mais tiens, est-ce que ça conviendrait au climat, etc. Et l'objectif, entre autres, de cette activité-là, bien sûr, elle est linguistique, mais dans le projet de créer un espace intérieur universel, c'était bel et bien de les faire voyager dans le monde entier pour visiter les habitats, comprendre leurs fonctions et leurs matériaux, pour les amener à rentrer à l'intérieur de l'habitat, découvrir les objets de la maison, les meubles, et ce pourquoi chaque fois, chaque meuble, chaque création a une fonctionnalité en fonction de l'environnement dans lequel les gens habitent. Et donc voilà. Et ici, je pointe juste qu'on est passé par les textes et les photos à mettre sur des pancartes, et on a passé beaucoup de temps, et c'était fait exprès, à la mise en forme. Parce que c'est aussi une stratégie. Lorsque l'on lit, qu'on écrit, il y a le balayage visuel, il y a la façon d'appréhender la page, etc. C'est une façon aussi de s'approprier la stratégie du sens. Et de... Enfin, que les choses soient... Comme ça, plutôt que comme ça. Et que c'est porteur de sens. De comment est-ce qu'on voit le monde. Pas que c'est parce que ça doit être comme ça, c'est parce que ça, c'est facile pour la vue et c'est aisé pour la compréhension. Donc il y a toujours en dessous d'un exercice créé, il y a toujours des objectifs qui sont clairs et pensés. Parce qu'on y consacre du temps et qu'on n'a pas forcément de temps à perdre à rien. Donc, voilà. Je vais vous passer une autre séquence, mais sans le son. D'accord ? Je vais vous demander de bien faire attention à tout ce que vous voyez. Et pour ceux qui sont initiés, à rentrer en empathie totale avec ce qui se passe. Bien.
C'est une question, il y avait quelque chose en dessous ou c'était juste la matière de la...
Oui. Oui. Donc ici, c'est une séquence où j'ai travaillé sur le toucher. Et donc la séquence, c'était, je leur avais demandé, on a vu en amont les objets de la maison, etc., etc. Et je leur avais demandé de prendre un objet chez eux, un objet qu'ils aiment bien, ou qu'ils ont envie de faire découvrir, enfin, un truc super classique, quoi. À m'amener dans mon bureau sans que les autres nous voient. Donc, ils ont défilé dans mon bureau, et donc, j'ai tout gardé. J'ai acheté du tissu, je l'ai caché. Et donc, l'exercice, c'était de découvrir ce qui était en dessous sans regarder, évidemment. Et pour soi. Donc, c'est d'abord dans le silence le plus total. Ici, c'est la deuxième phase. Ils ont déjà touché avant tout seul, sans parler. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est joué ici ? Oui, c'est la deuxième phase, oui. Oui.
Pardon ?
Vous avez exprimé ce qu'ils ont ressenti.
Mais comment ça s'est passé ? Vous voulez que je vous le repasse ? Regardez bien.
Une forme de caresse, comme ça. Assez délicat.
Qu'est-ce qui s'est joué là?
Ils font appel à leur. Ils font appel à ce qu'ils connaissent par rapport aux sensations du toucher de l'objet.
Oui.
Ils ne supposent plus, j'imagine.
Et au niveau du corps, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils utilisent leurs membres, ils utilisent les sensations internes.
Ils se mettent en situation d'utiliser l'objet.
Comment?
Ils se mettent en situation d'utiliser l'objet, et on voit en ligne tout le monde qui fait à peu près le même geste. Ici, il y avait un sens commun qui émergeait.
Oui. Il y a quelque chose vers la fin de la séquence où. On voit en effet qu'ils ont une espèce de collectivité dans le mouvement, quoi.
Ils sont un peu tracés.
Oui, donc ils sont en mouvement, exactement comme dans la définition dans l'étymologie du mot émotion, c'est en mouvement. Donc ils sont en mouvement. Donc ils sont en train de faire quoi? Pourquoi ils font ça? Ça sert à quoi?
De reconnaître, de
chercher.
Donc dans leur tête en fait, qu'est-ce qui se passe? Enfin dans leur corps, qu'est-ce qui se passe? Ils imaginent. À travers de leur corps, ils sont en train de passer. Ils se le représentent à partir des informations tactiles. Donc de nouveau, sensations corporelles, émotions, informations. L'information qui rentre, bah, ici comme l'exercice c'est le toucher, bah, par les doigts, par la sensation fine. Qu'est-ce qui se passe au niveau physique? Une fois que vous avez l'information qui vient là,
ils essaient de trouver à quoi ça correspond.
Oui. Voilà, pour avoir la conception, il y a tout ce processus de information, un flux nerveux qui monte jusqu'au cerveau, jusqu'à la conceptualisation à l'image mentale, et ainsi de suite. Donc il y a cet aller-retour-là. L'image mentale qui passe vers le champ sémantique. Le champ sémantique, c'est le concept. Le champ lexical, c'est on passe du concept au mot. Donc il y a toujours ce mouvement-là, si vous voulez. Non, parce que dans un. Oui. C'est très important ce que vous dites, c'est qu'au niveau du champ sémantique, on a le concept. Mais seulement au niveau lexical, dans la nouvelle langue, on n'a pas toujours le bon mot. On va aller dans la catégorie. C'est-à-dire qu'on se meut dans une catégorie. Ça peut être le nom, le substantif, mais ça peut être aussi sa fonction, sa couleur, sa forme, sa texture, etc. Mais à partir de cette connaissance-là, je vais m'allier à mes camarades qui aura peut-être ceci, cela, etc. Et voilà comment est-ce qu'on enrichit la langue sans avoir l'air de trop souffrir. C'est, ça a l'air d'être un jeu, mais c'est extrêmement technique, je pense. Je vous passe une autre séquence, avec le son cette fois-ci.
Réfléchissez à un nom pour cet objet.
Ils n'ont pas vu les objets, hein. C'est à l'aveugle.
À quoi ça sert? La vie, c'était quoi comme question avec les images?
Quelle forme?
Quelle forme?
Quelle forme? Qu'est-ce que c'est?
Quel matériau?
Oui, c'est que l'homme qui travaille.
Et j'ajouterai une autre chose. Dans quel endroit on trouve cet objet? Dans la maison.
Ou bien
oh oh
c'est les mêmes.
Ah, oh, c'est
Anne. Ça fait.
Est-ce que j'ai un an?
Voilà, donc ici, en termes pédagogiques, quels sont les objectifs qui sous-tendent ça?
Ici, on concrétise vraiment ce qu'on a ressenti au niveau d'aide.
On le modélise, oui. Et en tant que formateur, ça nous sert à quoi encore? Oui. Et quoi encore?
La comparaison, comparer ce qu'on a fait avec ce qui était. Et là, c'est plein de vocabulaire.
Oui.
Donc, ça peut aider à fixer le mot aussi.
Aussi.
Parce que les femmes ont la vécu dans le temps, oui. Dans
oui.
On l'a peut-être pas réalisé.
C'est ça. La réalisation, la mise en mouvement, l'action au niveau plus physiologique et métabolique, ce sont les connexions neuronales qu'on se fait. Et ces connexions-là, sont une fois installées, ne partiront plus jamais. Donc, ancrage profond. Mais quoi encore en tant que formateur? Ça nous sert à quoi? Ça nous évite de, des fois, passer par quelque chose un peu plus rébarbatif, personnellement, je trouve.
La comp... Travailler la définition avant même de nommer, en fait.
Aussi.
Et donc, du coup, il y a plein d'éléments de vocabulaire qui viennent naturellement parce qu'on a besoin de communiquer sur l'objet.
Oui, c'est la fonctionnalité du langage. C'est aussi une manière, c'est de l'évaluation et de l'auto-évaluation. Sans passer par « Et qu'est-ce que t'as vu ? Et qu'est-ce que c'est ?» C'est fatigant pour le formateur. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Après, je n'en pouvais plus.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est valable pour plein de moments de la vie. Le passage par les mains, c'est utiliser une autre fonctionnalité pour s'exprimer. Il y a des gens qui sont très doués avec les mots et moins doués avec d'autres canaux d'expression comme créer avec ses mains, et d'autres c'est l'inverse, donc ça permet d'exploiter les canaux d'expression différents où les gens peuvent s'y retrouver en fonction oui. De leur canaux préférentiel.
C'est exactement ça, d'ailleurs dans le diaporama je l'ai noté, c'est que ici comme on est dans un projet en immersion artistique, c'est aussi une manière de mettre en valeur les savoirs différents, les compétences différentes. Et allier toutes ces forces-là à la réalisation de quelque chose de concret, ensemble, malgré une langue que l'on connaît, bien sûr.
Oui, parce que tout le monde est heureux, on découvre, on découvre oui. Leurs enfants, voilà,
oui.
Ça fait partie de ce côté de l'apprentissage.
Personne n'a envie de vivre tout le temps, comment dire, du déplaisir. Je pense.
Les évocations, surtout
oui.
Par le mot, on peut aussi faire appel à la communication gestuelle.
Oui. Donc c'est stimuler en fait toutes les manières de communiquer. Je vais aller à la minute 16. Hein. Ici, on est plus loin dans le projet.
Vous allez reprendre les textes et souligner tous les mots que vous connaissez. D'accord ? Partagez-vous le travail.
Visite. Musée. Tu viens ? Oui ? Tu me gardes ? C'est beaucoup d'un monde. C'est chaise, c'est une lampe, c'est toutes les formes, c'est la couleur. Voilà. Symbole de la féminité. Femme. Oui. C'est réfléchir, c'est une femme. C'est comme ça directement. Oui. C'est pour le symbole. Voilà maintenant. Oui.
Mais souvent ces documents-là sont comme tels dans la réalité parce que finalement en immersion, personne ne dit trois phrases et s'arrête. Aucun article de journal ne s'arrête après la traduction. Donc il faut tout de suite rentrer dans la difficulté, la complexité, tout en le calculant. On n'apprend pas une langue en le gagatinant, parce que si on a... Bon, là, j'arrête là. Là, vous avez vu l'artiste, en fait, la réelle plus-value, c'est de collaborer avec un artiste tout au long du projet. Il insuffle sa passion, son enthousiasme et sa spécificité. Quand il fait des démonstrations sur le mélange des couleurs, etc., ça a été complètement passionnant. Et ils l'ont vécu de l'intérieur. J'aurais pu le faire aussi, mais certainement pas aussi bien que lui, parce que c'est lui qui incarne, en fait, la discipline artistique. Même si on a travaillé étroitement tous les deux, ce qui a fait que ça faisait qu'un seul et unique projet. C'est ce qu'on demande aux étudiants, donc ça nous a demandé à nous aussi de le faire en vrai. Donc, pour terminer, on a abouti par construire un espace intérieur universel, vous savez, quand même. On était ravis quand même à la fin.
Partagez-vous le travail. Afin d'être efficace, car vous n'aurez que 1h30 pour réaliser votre intérieur zen. Les créations les plus zen seront réalisées en taille réelle.
Je sais pas. Non. Non.
Ce qui est important pour moi, c'est qu'après cette phase-là, maintenant on a la phase pratique, c'est-à-dire maintenant les étudiants ont un outil technique linguistique, mais aussi un bagage de savoir artistique, culturel, qui leur permet alors de communiquer, d'entrer en interaction et de créer. La phase de création, de réalisation, est une phase, je dirais, obligée. Parce que c'est seulement là qu'on se rend compte de ce qu'on a engrangé et de ce qu'on est capable, finalement, de faire.
Et enfin, la fin.
Et...
meuble créé. Donc c'était un espace intérieur avec un meuble universel. Ils ont travaillé sur les formes, leur signification, etc. Donc ils l'ont présenté dans une maison des cultures en performance. Donc ils ont eu la totale. La préparation de l'exposition, puisque ça a été exposé pendant plusieurs jours à un grand public dans la maison des cultures. Et avant de faire l'exposition, il y a eu une performance scénique. Donc, ils ont amené leurs meubles sur scène. Et là, voilà la rencontre avec leur culture propre. Donc, ils avaient choisi de s'habiller dans leur habit traditionnel, mais en habitant un espace qui soit universel, donc commun à tous. Donc, voilà. Je vais vous passer les derniers diapos qui résument. Donc, de nouveau, ici, je vous ai expliqué les influx nerveux, etc. Le passage à la verbalisation qui permet la co-construction des savoirs, la coopération et la mise en valeur des savoirs, et à chaque étudiant s'approprier la langue à sa manière, les intelligences multiples. Épilogue. Au-delà de l'apprentissage d'une langue, il s'agit pour l'étudiant d'une évolution globale personnelle, d'une nouvelle manière d'appréhender son monde intérieur pour mieux le faire correspondre avec l'extérieur et créer l'osmose avec le monde. Et enfin, partir des sensations corporelles, ne serait-ce pas finalement un voyage initiatique à la rencontre de soi pour aller à la rencontre de l'autre qui n'est que l'autre de soi-même. Voilà.
Merci. Alors, sans transition...
Je vais peut-être terminer par présenter... Si vous êtes intéressé, il y aura une formation sur cette démarche-là en avril à Bruxelles, organisée par l'IRÉCRIT. Ouais. Vous avez les folders qui sont là. Donc, je vous accompagnerai dans la construction de séquences pédagogiques et plus largement de projets qui va dans ce sens-là. Ici, il n'y a pas beaucoup de temps, donc c'est juste un trailer.
À concentrer.
Voilà.